Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission spéciale Jeunes Auditeurs consacrée aujourd'hui aux addictions. Nous vous donnons la parole pour essayer de comprendre comment se passe la rencontre, la découverte d'un produit, une habitude qui peut devenir non seulement envahissante, mais aussi impérative, impossible de s'en passer sans souffrance. Alcool, drogue, écran, jeu, comment cette substance ou ce simple passe-temps est-il venu à occuper de plus en plus de place jusqu'au jour où la dépendance s'est installée ? Quelles peuvent être les conséquences pour la santé physique, la santé mentale, les projets, les études, les relations familiales et même la sécurité lorsque l'on se retrouve confronté à la violence, à une forme de perte de contrôle. Évaluer les conséquences pour le jeune en situation de dépendance, mais aussi pour son entourage qui, dans certains cas, subit, dans d'autres, voudrait aider sans forcément savoir comment. Soigner une addiction, ce n'est pas simple lorsque l'environnement est répressif, les sollicitations multiples et que ces conduites problématiques sur le plan de la santé sont abordées uniquement sur le plan de la morale ou de la sécurité. D'où l'importance d'informer, de sensibiliser et de comprendre le moment venu qu'il faut demander de l'aide, trouver la bonne personne, le professionnel à qui parler pour accéder à une prise en charge adaptée. Jeunes et addictions, conseils pour arrêter ou pour aider un proche. Témoignage avec nous aujourd'hui, Dr Idriss Abba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et addictologue au CHU de Fannes, coordonnateur technique du CEPIAD, le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar. Vous êtes également le président de l'association sénégalaise pour la réduction des risques auprès des groupes vulnérables. Émission Jeunes Auditeurs qui nous donne l'occasion de vous retrouver. Adja Idriss Abba, bonjour.
Bonjour.
Adja, étudiante, membre de l'ONG Equipop et du réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone.
Priorité santé sur RFI.
Alors docteur Bas, ce CEPIAD Dakar dont vous êtes coordonnateur, c'est l'une des rares structures dédiées à cette prise en charge des addictions en Afrique de l'Ouest. Pourtant, cette problématique de l'addiction, elle est bien présente, elle est bien réelle. Au niveau de votre centre, si on s'intéresse précisément à cette population jeune, pour quelles substances est-ce qu'il y a le plus de demandes ? Pour quel type de problème vous êtes le plus sollicité ?
Bonjour, au niveau du CEPIAD, nous recevons des jeunes qui viennent consulter pour divers produits, consommation de divers produits. Et le produit qui vient le plus souvent, c'est le cannabis, parce que c'est le produit qui est le plus disponible et qui est le plus accessible par rapport à cette population. Mais de plus en plus, nous voyons des jeunes venir avec des problématiques liées à l'alcool, liées au tabac, liées aussi à d'autres substances qui sont quand même assez nombreuses.
Est-ce que les jeunes savent que les addictions, ça se soigne ?
Il y a très peu d'informations, parce que comme vous le dites, il y a très peu de structures, très peu de spécialistes dans nos pays. Et l'accès à l'information quand même pose problème, d'où cette nécessité de continuer à sensibiliser pour informer les populations, pour leur dire qu'il y a des structures qui sont spécialisées, qui existent de plus en plus. À Dakar, on a le CEPIAD, on a l'hôpital psychiatrique de Kiaroy qui a ouvert une unité d'addictologie. Il y a d'autres structures aussi qui se mettent en place dans les régions. Au niveau de la région aussi, il y a des structures. Donc, il y a des spécialistes aussi qui travaillent et qui sont spécialisés dans la prise en charge des problèmes liés aux addictions.
Alors, jeunes auditeurs, aujourd'hui, docteur Bas, est-ce que vous avez le sentiment, en tant que professionnel de la santé, qu'il y a une vulnérabilité particulière à ce moment de la vie, quand on sort de l'adolescence, et que justement, on essaye de nouvelles choses et ça peut aller vers la dépendance ?
Absolument. On sait que l'adolescence, c'est la période principale où se font l'expérimentation et surtout l'initiation à l'usage de substances psychoactives pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des facteurs de risque, des facteurs de vulnérabilité qui existent sur le plan psychologique, mais liés aussi au fait de la problématique adolescentaire. Parce qu'on sait que c'est une période où l'adolescent est en quête d'identité, il se cherche et pour une raison ou pour une autre, il peut faire la rencontre de substances psychoactives qui peuvent le pousser vers une addiction.
Alors justement, quand on parle des jeunes et des addictions, hein, Adja Idrissaba, pas question de stigmatiser la jeunesse. On parle bien de quelque chose de réel, cette période où on essaye des choses, on rencontre de nouvelles personnes, on repousse les limites. Est-ce que c'est un sujet de conversation, de préoccupation entre jeunes, Adja?
J'avoue que c'est un sujet par ignorance aujourd'hui. On se retrouve emprisonné de nos propres ambitions, qui sont pas mesurées parce que c'est la mode chez les jeunes et donc le sujet, c'est un sujet au quotidien. Quand à partir du moment où nous rentrons au collège, parce que moi je me souviens quand on était au collège. On avait des amis quand même, on les appelle la Colombie derrière, et ils sont addicts à tout ce qui est drogue et toutes ces substances qui sont néfastes pour leur santé. En classe même, ils se permettent de fumer et de rester dans la mode. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire quand tu es dans ce monde-là, c'est que c'est comme si en
c'était
fait,
des groupes à part en fait.
Justement, c'est des groupes à part, mais ils se comprennent entre eux et c'est le vrai monde pour eux. Bon, c'est par ignorance, c'est l'adolescence et tout, et ils grandissent avec. Donc aujourd'hui, par exemple, la jeunesse, je me dis que c'est la prison totale, parce que si nous voulons devenir des responsables ou nous voulons réussir et ne pas être dépendants de quelque chose, il faut d'abord que nous soyons indépendants. Dans notre propre santé, pour notre propre santé. Il ne suffit pas de boire de l'alcool pour tenir un discours, il ne suffit pas de prendre une substance, c'est-à-dire une drogue, pour tenir face à un obstacle. Il faut que nous soyons naturels. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas notre dépendance et elle a fini par contrôler nos vies.
Docteur Idrissaba, sur cette dimension d'addiction, est-ce que le message est perçu encore avec une dimension très importante de tabou, c'est-à-dire il y a l'interdit, il y a le regard, il y a un petit peu le jugement de la société, ou est-ce qu'on va un petit peu vers la prise en compte de la dépendance comme une maladie?
Ben, c'est un peu les deux à la fois. L'addiction étant un sujet tabou, c'est très peu abordé au niveau de l'espace familial et même au niveau de l'espace scolaire, ce qui fait que les jeunes sont un peu perdus, ils perdent des repères, parce qu'avant, concernant l'adolescence, je pense que nos sociétés traditionnelles avaient bien géré le problème de l'adolescence par des rites initiatiques qui faisaient que l'enfant passait rapidement de l'état d'enfance à l'état adulte. Bon, maintenant, ces rites initiatiques ayant disparu, et il n'y a rien qui a été mis en place, ce qui fait que l'adolescence est de plus en plus imposée. C'est-à-dire que dans la société, c'est comme si elles n'étaient pas encore préparées à cette problématique de l'adolescence. Et le problème d'addiction vient, c'est comme si ça vient au mauvais moment. L'adolescence se retrouve à un point au mauvais moment et au mauvais lieu. On a parlé des groupes, etc., mais ça, c'est des phénomènes marginaux qu'il faut que l'adolescent, pour une raison ou une autre, fait la rencontre du produit ou de la substance et commence à l'expérimenter, parce qu'on sait, l'adolescence aussi, on teste des choses, on essaie de voir ses limites, on essaie de relever des défis du moins, ou bien ils sont à la recherche de leur identité, d'une identité propre, mais aussi d'une identité par rapport au groupe. Et la rencontre avec le produit fait que l'adolescent va essayer de tester, va essayer d'expérimenter, et dans le cadre de cette expérimentation, qui peut être aussi une initiation, en fonction des produits, du fait de leur pouvoir addictogène, peuvent conduire l'adolescence qui va passer d'un usage peut-être récréatif ou d'une expérimentation à une dépendance proprement dite.
Et avant de retrouver des auditeurs en ligne, on va d'abord ouvrir le micro de Priorité Santé justement à un groupe de jeunes pour comprendre leur perception. Et c'est Raphaël Constant qui s'est rendu à Pantin, en région parisienne, dans les locaux du Lab, un service municipal qui accueille et accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans leur projet. Alors aujourd'hui, ils sont trois à s'exprimer. Mourad, 19 ans, qui ouvre la discussion en compagnie d'Ilias et de Samy, tous deux 18 ans.
Moi, depuis tout jeune, mes parents, on va dire qu'on m'a sensibilisé par rapport à la drogue. On m'a toujours expliqué que c'était pas nécessaire et que surtout ça développait une addiction. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus répandu, surtout dans nos quartiers, parce qu'aujourd'hui tu marches dans la rue, on peut voir un joint, une bouteille d'alcool à la main, c'est plus qu'en soirée. Hein. Et j'ai jamais été attiré à avoir envie d'y aller, de goûter ou d'essayer.
Moi, depuis que je suis petit, j'avais des amis qui fumaient, qui buvaient aussi. Et on m'a toujours dit de ne pas essayer d'imiter tes amis s'ils font de telles choses, parce que ça dégrade notre santé. En ayant vu comment ils ont terminé, être accro, énervé tous les jours, fatigué, impulsif, ça ne me donne pas envie d'y toucher du coup.
À partir de quel âge tu as vu des amis commencer à consommer de l'alcool ou de la drogue ?
Vers l'âge de 13-14 ans, c'est-à-dire collège, début lycée. Suite à ça, j'ai, on va dire, rompu les liens. Ils avaient leur délire avec tout ce qui est drogue douce, joint de bœuf. Tous les jours, les sujets de conversation, on va dire, étaient autour de la drogue. Je ne me sentais pas à l'aise du coup. J'étais pas à ma place. J'avais plus rien à leur apporter. Ce qui est le plus consommé, c'est tout ce qui est joint de bœuf, cocaïne.
Ce que les quartiers vendent, c'est des joints de shit, des trucs comme ça. Quand on voit tous les effets négatifs qu'il y a, ils ont mal à la tête qui tourne, ils parlent doucement. Quand tu les vois fumer, on dirait des zombies, on dirait plus des êtres humains. C'est vraiment pas des trucs qui m'intéressent. Quand j'étais au lycée, j'ai déjà essayé une ou deux fois et j'ai vu que vraiment, bah, ça m'a pas du tout accroché. En fait, pour moi, ça rapporte vraiment rien de bien. Moi, je me suis juste éloigné de ce genre de personnes qui t'incitent à consommer ce genre de choses ou même à les vendre. Souvent, ils ont commencé pour l'effet de groupe. Sur le coup, ça va peut-être lui faire du bien. Sauf que s'il veut arrêter, il sera en manque. Et du coup, il doit reprendre. Mais après, ça le met mal. Et c'est un cercle vicieux. Et en fait, il faut juste essayer de ne pas rentrer dedans.
Est-ce que vous avez des amis autour de vous qui sont accros à l'alcool ou à la drogue ?
Un groupe d'amis qui est en plein dedans, dans la drogue. L'alcool un peu moins, même s'il y a de l'alcool. Et j'ai vraiment ressenti un avant et un après. Parce que ces personnes-là, quand elles n'ont pas leur, on va dire, leur dose, elles sont dans un état de manque. Et c'est vraiment dérangeant pour eux et pour moi. Parce que moi, je ne reconnais pas la personne qui est en face de moi. Et eux-mêmes, ils ne se sentent pas bien. Parce qu'ils ont besoin de cette dose. Ils sont nonchalants. Ils s'énervent au quart de tour, très rapidement, pour rien.
Et est-ce qu'ils te le disent ? Est-ce que cette consommation, elle est affirmée ou c'est caché ?
La consommation en elle-même, elle n'est pas cachée. Mais l'addiction, peu de gens arrivent à accepter qu'ils sont addicts. C'est dommage parce que c'est le premier pas pour un éventuel arrêt total.
Et est-ce que tu as déjà essayé d'aider tes amis à arrêter, à décrocher ?
Un groupe de 5 amis, je me retrouve seul avec un seul. Forcément, on en parle. On ressent dans ses paroles qu'il a envie d'arrêter presque. Il sait que c'est pas bon pour lui, qu'il doit en racheter à chaque fois. C'est déjà une perte d'argent. Quand on est jeune, on perd de l'argent. Ça prend un coup. Même les relations avec sa famille, elle est différente parce que peut-être que ses parents l'ont découvert et qu'eux, ils aiment pas ça. Lui, il n'arrive pas à arrêter. Il est dans un clash constant.
Et il en parle avec toi ?
Dans des situations où on est vraiment seul à seul, plus souvent en soirée, quand on est tous calmes, on parle un peu plus avec notre cœur. On lui dit « Pourquoi tu fumes ça ?» Et ça fait des débats assez, on va dire, qui tournent en rond. Parce que lui, il aime ça, il passe un bon moment sur le coup. Et des fois même, c'est automatique. Il sort son joint, il l'allume et voilà.
Moi, j'essaie tout simplement de leur expliquer tous les effets négatifs. Je leur demande aussi, eux, qu'est-ce que ça leur apporte. Et du coup, on rentre en conflit. En fait, ça change pas grand-chose. Je lui dis que il va sûrement pas vivre très longtemps s'il continue dans ça. Et ils disent « Ouais, je peux arrêter quand je veux », tout ça, alors qu'on sait que c'est faux. Hein. Et ouais, ils se mentent à eux-mêmes, en vrai. Ils savent déjà ce que ça rapporte de mal, mais vu qu'ils sont rentrés dedans, ils n'y arrivent pas à partir. Mais est-ce qu'ils essayent vraiment ? Je sais pas.
Alors, réaction maintenant. Ajay Idrissa Ba, on entend, on le sait, la drogue, bien sûr, l'impact pour la santé. Mais là, on l'entend aussi, l'impact pour l'amitié, pour le lien social. Comment est-ce que vous réagissez ?
Oui, ça, à les entendre, et c'est la réalité, on sent que d'une part, il y a la responsabilité aussi des parents qui est très importante, parce que il y a une sorte de sensibilisation, une sorte d'éducation à la base qu'il faut créer entre l'enfant et le parent. Et d'autre part aussi, il y a ce lien d'amitié en fait qui existe entre les jeunes, et ils se parlent de tout et de rien, et ça leur permet justement de se libérer et d'échanger sur des sujets qu'ils considèrent de tabous chez eux et qu'ils ne parlent pas avec leurs parents. Donc si tu as la chance, tu tombes sur une personne qui peut te conseiller de façon positive, là tu peux vraiment entendre des messages qui peuvent te sortir de cette addiction. Mais malheureusement, souvent, en fait, on dit que c'est les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Et souvent, en fait, c'est un groupe, ils ont la même addiction, ils font ensemble les mêmes choses. En fait, ce n'est pas pour discriminer qui que ce soit, mais je pense que ce n'est pas une faiblesse en soi quand tu as une addiction. Parce que peut-être tu as fait une erreur, mais c'est toujours réparable.
Donc continuer de tendre la main. Justement, ce reportage de Raphaël Constant. Docteur Idriss Abba, comment le psychiatre, l'addictologue que vous êtes, réagit-il à l'échange? On comprend vraiment l'importance du lien social entre les jeunes.
Ben absolument, parce que l'addiction pose vraiment la problématique du lien. Hein. C'est une pathologie du lien aussi. Parfois, on voit que c'est des jeunes qui, à un moment donné, ont eu des difficultés sur le plan relationnel du fait de cette tendance à vouloir chercher une identité qui leur propre et qui, du fait de la rencontre avec un produit, tombe dans l'addiction. Et on sait aussi, d'un autre côté aussi, que l'addiction, c'est une maladie. Une maladie du cerveau, parce qu'il y a des théories neurobiologiques qui expliquent un peu aussi ce phénomène de dépendance qui fait que, une fois dedans, c'est très difficile de s'en sortir seul. D'où le fait que la prise en charge doit être dans tous les cas une prise en charge globale. Autant sur le plan social, autant sur le plan psychologique, les jeunes doivent être, qui est addict, doivent être suivis, accompagnés, parce que tout seul, il ne pourra pas s'en sortir. Donc, il a encore besoin du groupe pour pouvoir recréer, entrer dans ce qu'on appelle une reconstruction du lien. Et je pense que c'est tout à fait...
essentiel, et c'est justement ce que propose votre centre, le CEPIAD. On va tout de suite prendre en ligne un premier témoin, justement, en ligne du Bénin.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Votre témoignage, Pillé, bonjour.
Oui, bonjour, tout est santé.
Et merci beaucoup de témoigner, parce que ce n'est pas facile de dire ce que vous avez à nous dire. Vous avez 22 ans, vous avez commencé par fumer des cigarettes, c'était à quel âge, Pillé?
J'ai commencé à fumer, j'étais déjà à l'âge de 15 ans.
À l'âge de 15 ans, d'abord ouais, le tabac, oui. Et puis ensuite d'autres produits, lesquels?
La marijuana, le chamédien, et puis parfois de la coke.
De la coke aussi. Voilà. Est-ce que cette consommation, ça a commencé à un moment spécial de votre vie?
Oui. La consommation a commencé quand j'avais perdu ma maman, déjà à l'âge de 15 ans, parce que c'était elle qui faisait particulièrement tout pour moi. Donc, son décès, vraiment, je n'arrivais pas à supporter vraiment son décès. Et puis, voilà, j'ai eu un ami à l'école qui m'a dit, voilà, et puis ça, et puis... ça va m'aider à me soulager, puis voilà, c'est de là que j'ai parti.
Vouliez vous soulager. Aujourd'hui, vous avez parlé des différents produits que vous prenez, tabac, marijuana, chanvre indien, cocaïne. Vous consommez comment, à quelle fréquence?
Aujourd'hui, vraiment, je m'inquiète pour mon état de santé, parce que par jour, je dois prendre au moins 3 cigarettes, voire 10, pour pouvoir compenser le manque de marijuana. Parce que quand je me lève, puis voilà, je prends pas ça, c'est comme si, voilà, je suis nonchalant, je vois tout est bizarre, qu'on sort, voilà. Même pour pouvoir même manger, même difficilement, j'arrive à manger, sans que je ne prends pas la cocaïne, Parce que la cocaïne, c'est difficilement qu'on en trouve ici, à côté de nous. Mais le chambénien, la marijuana, la cigarette, ça, c'est chez les Vénélas. J'arrive pas du tout à dormir, j'arrive pas du tout à manger.
Beaucoup de personnes pillées, quand ils pensent qu'une personne se drogue, la voient comme un délinquant. Vous nous parlez de votre malaise, les souffrances, la difficulté, ça vous empêche de manger. Quand vous décrivez ça, en fait, ça ressemble à une maladie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, c'est ça, j'ai dit. C'est ça, j'ai dit que vraiment, c'est vraiment inquiétant pour moi, parce que je me suis dit chaque fois que j'essaie de laisser, il finit encore par sombrer. Mais il y a un côté vraiment qui m'a aussi marqué, c'est le fait que j'ai été rejeté par ma famille. Et quand j'ai eu une overdose, puis voilà, je me suis ouvert à l'hôpital, je me dis voilà, que j'ai une forte consommation en drogue. Puis voilà,
Vous avez fait une overdose de cocaïne, c'est ça?
Oui, de la cocaïne. De la cocaïne.
Et donc vous avez dû être hospitalisé, vous avez failli mourir à ce moment-là.
J'ai failli laisser ma vie.
Et je vais dire, malgré tout, vous avez frôlé la mort et pourtant, c'est tellement difficile d'arrêter.
Franchement, je vous dis, c'est difficile. C'est difficile. Je n'arrive pas. Chaque fois que j'essaie d'arrêter, mais finalement, tout est bizarre. Je ne me sens pas bien dans ma peau. Je ne me sens pas bien. Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à dormir.
Mais Pillé, vous essayez d'arrêter tout seul, c'est ça?
J'essaie d'arrêter tout seul, mais j'ai essayé de suivre un traitement, mais franchement, j'ai eu honte, parce que j'étais déjà presque au bout, mais finalement, j'ai encore sombré, parce que j'ai eu la visite d'un ami à la maison, voilà, j'ai tout fait pour hésiter, mais j'ai pas pu.
Ouais, la difficulté, c'est que même quand vous essayez, vous avez le malaise physique, le malaise mental, et en plus, il y a des tentations, puisqu'il y a des amis qui viennent avec les produits, c'est ça?
Voilà, ouais.
Puis, docteur Idriss Abba, c'est un spécialiste des addictions, c'est un médecin justement qui sait exactement comment agir avec des personnes qui sont dans votre situation. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui demander?
Je voudrais vous demander des méthodes, des remèdes, des astuces pour que je puisse vraiment aider. Parce que, voilà, parce que hier j'ai perdu un ami. Et c'était déjà l'overdose.
C'est tout récent? Ça vient juste d'arriver?
Oui, hier.
Ah, hier, c'est terrible. Eh bien, on vous présente nos condoléances. Docteur Idriss Abba, Pillé qui est dans un désarroi profond, qui ne sait pas comment s'en sortir, il a utilisé le terme d'astuce, mais on sait très bien que pour arrêter une situation comme la sienne, il faut plus que des astuces, il faut une vraie prise en charge.
Oui, absolument, parce que quand on est parce qu'il faut distinguer l'addiction de l'usage. Vraiment, l'addiction, c'est le niveau le plus élevé où la dépendance se met en place. Et quand il y a dépendance, surtout avec la cocaïne, ou que ce soit la cocaïne, l'héroïne, le cannabis ou l'alcool, on va avoir une dépendance physique, hein, c'est-à-dire c'est le corps qui souffre, ce qu'on ne voit pas avec la dépendance à l'héroïne, à la cocaïne, mais il peut y avoir une dépendance psychique. Et c'est toute la difficulté de la prise en charge, parce que contrairement à l'héroïne, il existe des produits de substitution, mais avec la cocaïne, il n'existe pas de produits de substitution. Et c'est cette dépendance psychique, sur le plan psychique, qu'il faut vraiment essayer de prendre en charge. C'est vrai qu'on le sent qu'il est très motivé. Hein. Il a la volonté d'arrêter.
Quand on rencontre quelqu'un comme ça, justement, docteur, il faut s'accrocher à cette volonté pour l'inciter à la transformer. Mais encore faut-il qu'il y ait les moyens médicaux derrière pour suivre. Il est au Bénin, Pillé, cet auditeur. Est-ce qu'il y a là-bas des ressources? Est-ce que vous le savez? On imagine, il a perdu son ami, il est en deuil, il a envie d'arrêter. Il peut en parler à qui aujourd'hui?
Au Bénin, je n'ai pas de connaissances, mais je pense qu'il y a des personnes quand même qui sont spécialistes, qui sont soit à Cotonou ou à Cara, à l'hôpital psychiatrique. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que cette motivation-là soit travaillée. La motivation, elle est là. Et je pense que cette motivation, c'est pourquoi c'est important de travailler cette motivation, parce qu'on voit qu'il y a une motivation extrinsèque. Donc c'est quelqu'un qui a été rejeté par la famille du fait de son addiction. Et C'est quelqu'un qui recherche, qui cherche à encore réintégrer la famille. Ça, on peut dire que c'est une motivation qui est là, qui est extrinsèque, qui vient du dehors. Mais c'est la motivation intrinsèque qu'il faudra peut-être retravailler dans un premier temps. Et ça, ça ne peut plus se faire qu'avec, qu'avec un spécialiste. Il existe, bien sûr, il n'existe pas de médicaments de substitution, mais il existe des produits qui peuvent l'aider à faire face à cette, ce qu'on appelle cette forte envie de consommer.
Et pour bien expliquer aux auditeurs, quand on a une dépendance très forte comme ça, même si ça peut faire peur au premier abord, il faut s'adresser à un service de psychiatrie.
Absolument, un service de psychiatrie, mais quelqu'un aussi qui est spécialisé dans la
dans les addictions.
Dans les addictions.
Voilà.
Soit en, voilà, qui, par rapport aux thérapies comportementales et cognitives, etc. Je pense qu'il a besoin de parler à quelqu'un, il a besoin de s'adresser vraiment à un spécialiste pour vraiment recréer ce, ce lien et rompre cette, cette chaîne, ce cercle vicieux qui se met en place, qui s'est mis en place depuis trop longtemps et qui fait qu'il est devenu dépendant.
Pied, vous êtes avec nous. Est-ce que vous vous sentez capable d'aller en parler à un médecin? Parce qu'en plus, là, vous venez de vivre un drame. Est-ce que vous vous sentez capable d'y aller maintenant?
Bon, actuellement, franchement, je ne sais pas si je suis capable ou pas. Mm-hmm. Parce que chaque fois que j'essaie d'arrêter, je vous l'ai dit, je ne peux pas sombrer.
Oui, mais vous avez essayé jusqu'à présent par vous-même, vous faire aider par quelqu'un. Est-ce que vous avez essayé d'aller voir un médecin dans un service psychiatrique, un spécialiste de l'addiction? Est-ce que vous avez fait cette démarche?
Écoutez-moi.
Oui, je vous écoute.
Si déjà moi-même, je n'arrive pas à arrêter, et pas un psychiatre qui va m'amener à arrêter. Parce que la volonté d'abord devait d'abord venir de moi-même.
Mais la volonté, vous l'avez exprimée, Pied. La volonté, vous l'avez exprimée. Ça me fait penser à une image. Quand vous êtes en train de vous noyer, si quelqu'un vous tend la main, il vous tend la main, il vous aide à sortir de l'eau. Mais vous voulez vous en sortir, mais vous n'y arrivez pas tout seul.
Ok. Donc, vous avez raison. Mais sinon, je me suis dit, mais une fois que moi-même, déjà, j'arrive à essayer d'arrêter, mais je n'arrive pas. Mais je me suis dit que... peu importe ce que le psychiatre pourra faire, mais je me suis dit que ce serait un genre nul. Voilà, ça, je sais.
Peut-être que quelqu'un pourra vous aider. En tout cas, on vous remercie pour cet appel parce qu'il faut beaucoup de courage pour raconter une histoire comme la vôtre. On vous remercie beaucoup, Adja. On a entendu Pied, hein, ce jeune de 22 ans qui explique aussi comment sa famille l'a rejeté. Ça peut arriver. Il y a même des amis en classe qui peuvent vous rejeter parce que vous devenez du jour au lendemain différent. Vous êtes moins réactif. Quel message vous avez envie de lui transmettre à Pied?
Moi, j'ai envie de m'adresser à mon frère parce que c'est très touchant ce qu'il vient de dire. Et juste se rassurer que la famille, elle peut te rejeter, mais elle sera toujours ta famille. Qu'elle te rejette ou pas, c'est toujours ta famille. Il ne faut jamais, en fait, se lancer dans certaines pratiques telles que ces addictions à certaines substances par manque de quelque chose. Ne pas dépendre de ça, en fait, parce que tu vas continuer à sombrer dedans pendant que ta famille va encore continuer à te relâcher et à t'abandonner. Donc moi, ce que je peux dire à Pilier, c'est d'aller voir un psy, de ne pas rester dans son coin, parce que tu restes dans ton coin, tu ne pourras pas t'en sortir. Rester à se victimiser, à dire surtout c'est à cause de ça que ça m'arrive. Donc toute situation a une solution. Et dans son cas, je pense que c'est toujours possible qu'il ne perde pas espoir. Déjà qu'il a envie, il peut y arriver. Si toutefois il y a quelqu'un de spécialiste qui peut l'apporter une aide et que sa famille aussi le comprenne, qu'il s'approche petit à petit à la famille pour les rassurer qu'il a la volonté de changer et qu'il ne se fasse pas abandonner par sa famille, parce que s'il a besoin de ça pour se rassurer d'un côté, je pense qu'il a besoin vraiment d'un soutien dans ce sens-là.
Justement, le soutien d'une famille face à l'addiction, docteur Ba, le frère de Judita qui écoute RFI au Tchad, elle nous explique son frère aîné est militaire, il a la quarantaine, il consomme de la drogue pour se soulager. Sa sœur Judita, elle a 25 ans, elle explique que sa consommation a commencé avec son engagement dans l'armée. Aujourd'hui, il se sent mal lorsqu'il arrête. Judita voudrait l'aider à arrêter. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, docteur Ba, quand on a comme ça un proche, un frère, un cousin qui est dans la drogue et qu'on voudrait l'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Faire plusieurs choses. On sait que par rapport à l'addiction, il y a cette pathologie du lien qui est là, il y a toujours aussi cette volonté de pouvoir accompagner. On a vu le rôle principal que peut jouer l'entourage hein, dans la prise en charge. Dans le cadre d'une prise en charge globale, je pense que la présence de la famille, l'accompagnement est très importante. Parce que souvent, les choses sont beaucoup plus profondes que ça. C'est pourquoi, comme à l'instar des pieds dont on vient de parler, mm-hmm. il serait bien quand même que, qu'ils soient accompagnés vers un spécialiste mm-hmm. pour pouvoir se faire évaluer d'abord. Je pense qu'on va procéder d'abord par des phases mm-hmm. d'évaluation, une évaluation sur le plan addictologique par rapport aux consommations. Mais tout ne doit pas tourner autour du produit. Mm-hmm. Ce qu'on avait l'habitude de faire, tout était axé sur le produit. Et ça, la personne va se sentir stigmatisée, pointée, désignée du doigt. Et je pense que l'essentiel, c'est qu'il puisse parler d'autres choses, évoquer ses rêves, ses
envies. C'est vrai que quand on est allé au Sépia de chez vous, il y a un jardin, il y a des activités matérielles, artisanales. On se change les idées, on parle entre soi, il y a des animateurs. On ne parle pas que de drogue, on parle de la vie.
Justement, on parle de la personne, on parle de l'humain. On est dans l'humain, on est dans quelque chose de vraiment dynamique, quoi. Et tout ne peut pas, parce que le produit, c'est quoi? Le produit, ce n'est pas quelque chose de vivant. On ne peut pas parler avec le produit. Mmh. Et je pense que le produit vient remplacer quelque chose ou quelqu'un. Et mmh. je pense que le travail doit tourner autour de cette recréation du lien mmh. qui se fait.
Combler les manques dans toute leur diversité. On va vous retrouver, hein, Dr Ba, tout comme Adja, en ligne pour d'autres témoignages. Juste après, Justin Wellington avec Ico Ico. Yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucky mo fina anane. Chucky mo fina ane. Okay, your mama ngwele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ane.
Let me take it from here. Salomon girl straight up. Right hood, say mama, make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies, do the doggy doggy. I'm jamming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me jumping on me beat, making slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping, we jamming the island way.
Shout out to the good time crew, all across the islands. Grab your shoes, let me two by two, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey.
Priorité santé sur RFI, émission Jeunes Auditeurs, toujours en compagnie de nos deux invités, Dr Idriss Abba, psychiatre au CHU de Fan, addictologue, coordonnateur technique du CEPIAD, et en ligne, Adja Idriss Abba, membre du réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et on part pour la Guinée forestière, Nzérékoré précisément, avec en ligne Baldé. Baldé, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, vous avez 24 ans, des problèmes avec l'alcool, on va dire. Ça remonte à quand, cette consommation d'alcool?
Ça remonte depuis 2015, lorsque j'étais élève à l'école, au lycée. J'ai commencé à consommer l'alcool avec les amis de l'école, puis ceux du quartier. Pendant les week-ends et deux fois, même pendant les soirées après les cours, on partait pour consommer.
Et à partir d'un certain moment, Baldé, vous êtes mis à boire, y compris tout seul, y compris en début de journée.
Oui, oui. Pendant ce temps, vous savez, quand on sort avec les amis, on consomme deux fois. Toi seul, tu as envie de consommer seul. Deux fois, je sortais seul, je partais pour voir du Kinex. Et j'étais seul, je consommais deux fois 7 à 8 boîtes, bouteilles.
C'est de la bière, hein, c'est ça?
Oui, c'est de la bière. Ouais.
C'est de la bière. Comment a réagi votre entourage? Est-ce que la famille est au courant?
Oui, une fois, vous savez, quand on boit deux fois, on est dans l'excès. Quand on boit, on vient, la réaction change et tout à coup, les parents chassent. Comment tu es chez toi? Et tout à coup, quand tu changes de réaction seulement, on se rendra compte que tu as pris quelque chose que tu ne devais pas prendre. C'est comme ça que ma maman a su que maintenant, je commence à boire de l'alcool.
Elle a pris ça comment, votre maman? Parce qu'en plus, boire, c'est interdit par votre religion, hein, Baldé, c'est ça?
Oui, exactement. Elle n'a pas pris ça du bon côté. Finalement, elle a cherché des médicaments, comme on entend dans le quartier aussi. Avec ses amis, elle est partie chez les marabouts et aussi les produits traditionnels. Elle venait me donner ça souvent.
Mais pas du bon côté, mais en même temps, elle ne vous a pas rejeté.
Oui, elle ne m'a pas rejeté. Elle est là toujours à côté. Vous savez, chez nous, les peuples beaucoup et ils viennent en l'aide. Si tu as besoin de l'aide, ils viennent toujours pour te parler, pour te consoler aussi, pour te donner des conseils, ainsi de suite. Quoi.
Vous avez essayé d'arrêter plusieurs fois, Baldé?
Oui, j'ai essayé d'arrêter même en 2016. J'ai essayé d'arrêter, mais je suis tombé malade. J'ai fait au moins. On m'a envoyé à l'hôpital, on m'a prescrit beaucoup de produits, mais finalement, ça n'a pas abouti. Lorsque j'ai repris seulement, j'ai récupéré ma santé.
Et aujourd'hui, est-ce que vous en avez parlé à un médecin? Est-ce que vous êtes prêt à en parler à un médecin pour arrêter?
Oui, je suis prêt à en parler. La dernière fois même que j'ai été à l'hôpital des Irigoulés, j'ai parlé à un médecin là-bas. Et lui aussi, il m'a dit qu'il viendra en aide. Chaque semaine, je partais lui consulter. Quand même, j'ai commencé à réduire parce qu'actuellement, je bois 4 bouteilles. Après le travail, je ne consomme plus la journée, sauf la nuit, deux fois.
Est-ce que vous voulez arrêter complètement, Baldé?
Exactement, je vais arrêter parce que si vous voyez que j'en parle souvent et je parle consulter, même la dernière fois que j'ai intervenu sur RFI, c'était pour réduire la consommation aussi, aboutir à zéro.
Vous voulez réduire ou vous voulez arrêter?
Non, je vais arrêter.
Arrêter.
Ça commence d'abord, je pense que ça commence d'abord par la réduction. Et petit à petit, quand tu réduis ta consommation...
On va demander son avis au docteur Ba, hein, qui est un spécialiste addictologue. Docteur Ba, est-ce qu'il faut réduire la consommation? Est-ce qu'il faut arrêter? En tout cas, il faut qu'un médecin vous accompagne.
Oui, dans tous les cas, il faudra un accompagnement sur le plan médical, sur le plan addictologique surtout, sur le plan psychologique. Je pense qu'il a un bon soutien sur le plan familial, notamment avec la mère qui le soutient beaucoup en lui donnant des conseils, mais aussi en essayant de voir du côté traditionnel. Mais je pense que tout ça ne suffit pas. Il faut un accompagnement beaucoup plus structuré. Et vous avez bien dit, avec l'alcool, quand on est un consommateur chronique, c'est très même risqué d'arrêter de façon... Un sevrage brutal est très risqué. Même si ça se fait, ça doit être sous surveillance hospitalière. On ne doit pas faire un sevrage brutal en ambulatoire, c'est très risqué, du fait des risques qui peuvent, des complications qui peuvent s'installer. Donc, le meilleur conseil qu'on peut lui donner, c'est d'aller se faire suivre par un spécialiste pour pouvoir être évalué et ensuite pouvoir être accompagné vers un arrêt progressif de la consommation d'alcool. Parce que l'alcool, comme les autres produits aussi, il y a une dépendance sur le plan psychique, mais il y a aussi une dépendance sur le plan corporel. Beaucoup de personnes qui sont dépendantes à l'alcool ont peur d'arrêter. Parce que quand ils sont en manque, ils ont des tremblements. Et le fait de boire va faire disparaître ces tremblements. Ce qui fait qu'ils sont dans une sorte de...
De cercle vicieux.
De cercle vicieux. Et quand ils continuent à consommer, les troubles vont augmenter. Les complications, les risques de complications vont arrêter. Quand ils arrêtent aussi, les complications arrêtent. Ça peut même aller jusqu'à un état comateux. Donc, ce qui fait que nécessairement, pour cet arrêt, ce sevrage, que ça soit brutal ou progressif, nécessairement, il doit être accompagné par un spécialiste.
Et en tout cas, vous avez la volonté, Baldé, vous avez le médecin. Maintenant, il faut réunir les deux. Et vous faire aider. On vous remercie infiniment pour votre témoignage. On a évoqué la dépendance aux substances, il y a aussi les conduites addictives. Abdoul Karim du Burkina sur Facebook explique qu'il est accro aux paris sportifs, dépendance aux jeux. C'est ce que vous vivez aussi, Amadou, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous êtes en Guinée, à Conakry, 26 ans. En préparant l'émission avec Louise, vous avez confié être accro aux jeux vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire, accro aux jeux vidéo ?
Tout à fait. Moi, j'ai une addiction particulière. Depuis très longtemps, je dépends des jeux vidéo. Alors, j'éprouve beaucoup de mal quand je reste sans jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire les PlayStation particulièrement.
Et la console, elle n'est pas chez vous, vous n'êtes pas propriétaire de cette console. Du coup, il faut des efforts pour jouer, ça veut dire c'est assez loin de chez vous et en plus, vous devez dépenser de l'argent à chaque fois que vous jouez aux jeux vidéo.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est surtout là-bas le mal, puisque mon revenu n'est pas aussi que ça. Le peu que je gagne, très souvent, je suis obligé d'aller jouer aussi à la PlayStation. Très souvent pour m'aider à me débarrasser de certains soucis, disons. Puisqu'en jouant à ces jeux vidéo, très souvent, je me sens totalement déconnecté de la réalité. Alors, c'est quelque chose que je vais aujourd'hui laisser, mais c'est très difficile pour moi.
Vous n'arrivez pas à arrêter ?
Non, je n'arrive pas à arrêter. Et même quand il pleut chez moi, je sors pour aller dans les salles de jeu. Puisque chez nous ici, vous savez... assez de personnes n'ont pas les consoles de jeu. Il y a des petites PME qui ont ouvert les salles de jeu où très souvent nous partons jouer. D'ailleurs, je partage cet espace avec des enfants, des adolescents. Et ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas.
Alors que vous êtes adulte, docteur Ba, de nouvelles addictions. Est-ce que vous en êtes témoin, justement, cette addiction au jeu ? On sent aussi pour Amadou les problèmes que ça peut poser sur le plan financier, mais il explique, ça le fait oublier, ça lui permet d'oublier la réalité.
C'est la forme d'addiction la moins connue, et pourtant c'est une forme d'addiction qui existe, qui est bien réelle. Il s'agit des addictions aux jeux vidéo, mais aussi aux addictions, des addictions aux jeux de hasard et aux jeux d'argent, qui aux addictions aux smartphones aussi avec les élèves, et qui posent de plus en plus de problèmes. Et c'est le même phénomène qu'on retrouve dans l'addiction aux substances. Sauf que là, il n'y a pas de substance, c'est une addiction comportementale. Ça se passe sur le plan comportemental. C'est un comportement que la personne ne peut pas s'empêcher de répéter, bien qu'il connaisse un peu les risques, les conséquences négatives. C'est ça même la définition de l'addiction. On retrouve un syndrome de manque. Quand il ne joue pas, il n'est pas bien. Quand il joue, il a tendance à augmenter les mises. Il va même jusqu'à se ruiner. Il va même au-delà de ces trucs. Et à Dakar, nous avons fait une étude hein, au niveau de Dakar, au niveau des jeux de la Laurence, et qui avait montré que quand même 50% des joueurs qui utilisent en tout cas les produits de la loterie nationale sont des joueurs excessifs, donc qui présentent une réelle dépendance.
Et là aussi, justement, recourir au savoir, à l'accompagnement médical, c'est important ?
Absolument, parce que c'est le même phénomène hein, que l'addiction aux substances. Les mécanismes neurobiologiques sont les mêmes au niveau du cerveau et je pense que c'est une réalité et une prise en charge est tout à fait nécessaire pour que ces personnes puissent sortir de cette addiction.
On remercie Amadou pour son appel. Un autre témoignage, le tout dernier, c'est un message enregistré par Ange. Elle, le problème, eh bien, c'est simple, c'est le téléphone, on l'écoute.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Bonjour madame, bonjour aux invités sur le plateau, également aux auditeurs de Priorité Santé. Je suis Ange, étudiante, et je vous écris du côté d'Abidjan. Ma préoccupation est la suivante. Je suis beaucoup attachée à mon téléphone, disons même accro. Et cela joue beaucoup sur mes rendus scolaires, sur mon sommeil et également sur mes revenus du mois. Alors, ayant fait cette remarque, mes amis ont voulu m'aider. Étant en classe, ils prennent mon téléphone pour garder et à la fin du cours, ils me le remettent parce que vraiment ça me distrait. Et même moi-même, j'ai voulu changer cela. Alors, j'ai appliqué une méthode, le fait de me connecter que les week-ends. Je ne me connecte que les vendredis. Et du coup, je vois qu'il y a un changement. Alors, je voudrais que vous pouvez me donner d'autres moyens pour être dépendant de mon téléphone. Je vous remercie.
Alors, Ange, on l'entend, elle a mis en place des petites stratégies pour se défaire de cette addiction. Docteur Idriss Abba, le premier point positif, c'est qu'elle est consciente qu'il y a un problème.
Absolument. Oui, c'est comme dans toutes les formes d'addiction. Hein. On est conscient qu'il y a un problème, mais on ne peut pas s'empêcher de répéter le même, les mêmes comportements jusqu'à s'épuiser, jusqu'à avoir des... On est conscient qu'il y a un problème et qu'il y a des conséquences négatives par rapport à ce problème, mais on ne peut pas... C'est ça vraiment la définition de la dépendance par rapport au smartphone. Et je pense que par rapport aux substances aussi, la volonté y est, mais la volonté souvent ne suffit pas. Je pense qu'elle fait de bonnes stratégies hein, en essayant de se débarrasser le temps pour pouvoir se concentrer. Mais je pense qu'aussi, il faut aller au-delà de ça, en ayant recours à un spécialiste, comme dans toutes les formes. C'est des formes d'addiction qu'il ne faut pas
négliger. On perçoit aussi justement tous ces effets négatifs, problèmes de sommeil, problèmes d'argent, conséquences pour les études. Adja Idrissaba, on en a déjà parlé avec vous, hein, il nous reste assez peu de temps, mais quand on est accro au téléphone, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui de très répandu dans la jeunesse.
Bien sûr, tout comme les jeux, les réseaux sociaux, aujourd'hui nous dépendons de ça. On dit que c'est la nouvelle génération, d'ailleurs on nous appelle génération tête baissée. Et je pense qu'on peut essayer stratégiquement de nous débarrasser de cette addiction tout en essayant d'occuper le temps. Si on n'a pas le téléphone, peut-être qu'on a un livre à côté. Si on n'a pas ceci, on peut compléter ce manque par quelque chose d'autre pour ne pas ressentir le manque. Mais tout comme le docteur Ball a dit, je pense que nous avons besoin d'un psy, d'un spécialiste à un moment donné pour nous donner les bons conseils et nous guider selon ce qu'il nous faut.
Mais peut-être un dernier message, docteur Ba, avec vous en ligne de Dakar. On a beaucoup parlé des médecins, on a un peu parlé de la famille, mais il y a d'autres acteurs aussi qui doivent s'impliquer pour venir en aide en situation de dépendance. Je pense en particulier au pouvoir public avec des campagnes de sensibilisation.
Ben absolument, absolument. Parce que je pense que, comme on l'a dit, je pense qu'au cours de l'émission, chacun a son rôle à jouer dans la société.
C'est une question de santé publique.
C'est une question de santé publique. Je pense que ça va du généraliste à l'infirmier, mais aussi les décideurs. Les décideurs politiques aussi doivent développer, aider les professionnels à pouvoir, et les familles aussi, à élaborer des stratégies, mais aussi à faciliter vraiment la prise en charge. Il existe très peu de structures, très peu de moyens, très peu de spécialistes. Et je pense qu'on est dans le tout répressif, qu'il s'agit des drogues, qu'il s'agit des jeux, on est dans le tout répressif. Et je pense qu'à côté de cette répression, il faut aussi d'autres leviers sur lesquels on peut s'appuyer.
D'autres leviers, notamment lutter contre les stigmatisations. Et donc, on l'a bien compris, cette politique du tout répressif. Merci à tous les deux, Adja Idrissaba, Dr Ba. Très bonne continuation avec toute votre équipe formidable du Centre de prise en charge intégrée des addictions du CEPSIAD à Dakar. Notre émission touche à sa fin. Demain, émission spéciale questions de femmes. Toutes les questions au gynécologue, le docteur Abdoulaye Diop. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.